de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est juste que bonsoir, racontons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le Royaume-Uni a aidé 987 millions rupiah à construire une carte de vulnérabilité de COVID-19. 1,5 million de personnes médicales priorisent pour les receveurs de vaccins. Le typhon Maisak frappe la péninsule coréenne, coupant l'électricité. La Malaisie interdit l'entrée aux détenteurs d'un passeport américain, britannique et français. Le bateau à Bestio a saviré à cause d'une tempête dans les eaux japonaises. 42 membres d'équipage sont portés disparus. Le ministre de la Planification du Développement National a suggéré que Blitung mette en place un tourisme à base de qualité. Voici le journal complet. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de son ambassade en Indonésie, a aidé à financer 987 millions rupiah à l'organisation à but non lucratif Report COVID-19 pour construire une carte de la vulnérabilité de la maladie à virus corona 2019 ou COVID-19 à Jakarta, Java Occidental et Java Oriental. L'ambassadeur britannique Owen Jenskins dans le webinaire Toward Better Data on COVID-19 à Jakarta, jeudi a déclaré que ce soutien devrait faciliter la collaboration dans la gestion des données afin qu'il puisse gérer COVID-19 rapidement et intégré. Jenkins espère que le projet qui impliquera le gouvernement provincial de DKI Jakarta sera en mesure d'étendre les données détenues par le gouvernement provincial de DKI Jakarta sur la page corona.jakarta.go.id avec un succès et une description des conditions factuelles à Jakarta. Le directeur général du Comité pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale, Eric Thohir, a déclaré que pas moins de 1,5 million de personnes médicales sont la priorité des vaccinés. Il a dit cela après une réunion avec le conseil exécutif de l'Association indonésienne des médecins, ou PBID, et l'Association nationale des infirmières indonésiennes, ou PPNI, à Jakarta, jeudi. Eric Thohir a déclaré que le nombre était toujours sous estimation. Il a déclaré que les données de l'IDI et de PPNI étaient importantes pour s'assurer que l'équipe médicale de Kizhangte était la priorité. Pendant ce temps, le président de PBID, Daeng M. Fakih, a déclaré que sa parti était déterminée à travailler avec le comité dans la réalisation des vaccinations. L'IDI assurera la coordination jusqu'au niveau du district et même du sous-district. Le typhon Maisak a frappé la péninsule coréenne jeudi, entraînant des pluies torrentielles et des vents violents, de sorte qu'au moins une personne a été déclarée tuée et des milliers ont dû survivre sans électricité. Selon l'agence de presse Yonhap, le nombre de morts aurait été lié à une vitre brisée par les vents violents d'un ouragan avec la vitesse de 170 km par heure à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Les vols d'avions ont également été annulés ou suspendus, a écrit Yonhap, car des abris effondrés et d'autres débris ont endommagé le système d'éclairage. Maïsak est le 9e typhon cette saison et le 4e à avoir frappé la péninsule coréenne cette année, entraînant la perte d'électricité d'environ 120 000 foyers sud-coréens selon les autorités. La Malaisie a ajouté jeudi au moins 9 autres pays, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, à la liste des titulaires de permis d'immigration à long terme qui sont interdits d'entrer dans la Malaisie. Plus tôt, mardi, le gouvernement malais a annoncé qu'il interdirait les titulaires de permis d'entrée de l'Inde, de l'Indonésie et des Philippines à partir du 7 septembre 2020 dans le but de réduire les cas de virus corona en provenance de l'étranger. L'interdiction couvrira désormais tous les pays qui ont signalé plus de 150 000 cas de coronavirus, a rapporté l'agence de presse Bernama, citant le ministre principal Ismaël Sabri Yaakob. Ismaël Sabri a précédemment déclaré que l'interdiction couvrirait les résidents permanents, les expatriés, les élèves et les personnes ayant un visa de conjoint et les participants au programme Malaysia My Second Home. Un total de 42 équipages de transporteurs de bétail, Groove Livestock One, ont été portés disparus jeudi après que le navire qui partait pour la Nouvelle-Zélande pour la Chine a s'avéré dans les eaux japonaises, la région de la mer de Chine orientale, en raison d'une tempête la veille. Groove Livestock One transportait près de 6000 têtes de bétail avec un équipage de 43 personnes, comprenant 39 Philippines, 2 Néo-Zélandais et 2 Australiens. Un membre de l'équipage a été retrouvé et secouru. Reuters a rapporté jeudi soir que le seul membre d'équipage avait été retrouvé, tandis qu'un certain nombre de carcasses de bovins avaient été sécurisées. L'organisation néo-zélandaise de défense des animaux, SAFE, a déclaré que cette catastrophe posait un risque pour les commerces d'exploitation d'animaux vivants. La directrice de la campagne SAFE, Marianne McDonald, a déclaré que les vaches n'avaient pas besoin d'être au milieu de l'océan. L'organisation a demandé pourquoi ce commerce était autorisé à se poursuivre. Le ministre de la Planification et du Développement National, en tant que chef de l'Agence indonésienne de Planification et du Développement National, Suharto Monoarfa, a conseillé au gouvernement de résidence de Blitung, la province des îles Bangka Blitung, de mettre en œuvre du tourisme à base de qualité, car il possède un potentiel de nature unique que d'autres régions n'ont pas. C'est ce qu'a affirmé Suharto Monoarfa à Sijuk Blitung jeudi. Selon lui, l'état des attractions touristiques et des équipements à Blitung a été assez bon jusqu'à présent. Cela est indiqué par le nombre d'hôtels étoiles et même d'autres investissements hôteliers étoiles qui entrent dans la région. Suharto encourage Blitung à se préparer à accueillir de nouveau des touristes approchant la reprise des conditions touristiques, si bien que selon la prévision, il y aura une augmentation des visites touristiques dans la région. C'était le journal de la Voix de Midi à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, Shinzo Abe et la démission. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a officiellement annoncé la semaine dernière sa démission pour des raisons de santé. Il a déclaré qu'il ne voulait pas que sa maladie interfère avec la prise de décision et s'est excusé auprès du peuple japonais de ne pas avoir pu terminer son mandat. Shinzo Abe est le premier ministre non-stop le plus ancien du Japon depuis sa nomination en 2012. Shinzo Abe est le premier ministre non-stop le plus ancien du Japon depuis sa nomination en 2012. Le Japon est un pays souvent marqué par la démission de fonctionnaires. La culture de la honte et de la culpabilité est profondément ancrée dans leur vie. Si un agent public est coupable, il démissionnera automatiquement de ses fonctions. Ou dans le cas de Shinzo Abe, parce qu'il était malade, il a estimé qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions de manière optimale, alors il a décidé de démissionner. Certaines littératures expliquent que le Bushido, que l'on dit être la base de l'éthique de la population japonaise, est à l'origine de la démission fréquente des fonctionnaires. Le niveau de Bushido est meilleur, à savoir maintenir une bonne réputation et le respect de soi en ayant un comportement respectueux. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux dirigeants japonais préfèrent démissionner honorablement s'ils font des erreurs. En 2010, par exemple, le premier ministre japonais Yukio Hatoyama a démissionné parce qu'il n'avait pas tenu sa promesse lors d'une campagne électorale de déplacer les bases militaires américaines d'Okinawa. Après la démission de Yukio Hatoyama, le poste de premier ministre du Japon a ensuite été occupé par Naoto Kan. Mais après un an à la tête, Naoto Kan a également choisi de démissionner car il estimait qu'il n'avait pas réussi à restaurer le Japon après avoir été frappé par le tsunami de mars 2011 qui a provoqué une crise nucléaire. Shinzo Abe a été promu premier ministre en 2012 mais a finalement choisi de démissionner pour des raisons de santé qui l'ont empêché de s'acquitter correctement de ses fonctions. La démission de Shinzo Abe a déclenché un vote au sein du parti LDP pour le remplacer à la présidence. Cette élection sera suivie d'un vote au Parlement pour déterminer la figure à remplacer en tant que premier ministre jusqu'à la fin du mandat d'Abe en septembre 2021. Celui qui remplacera Shinzo Abe plus tard sera confronté à une tâche très difficile. Le Japon, comme d'autres pays du monde, est au bord de la récession. L'économie japonaise était de moins 2,2% au premier trimestre de 2020, tandis qu'au deuxième trimestre, elle était de moins 7,8%. La croissance économique au deuxième trimestre est la pire baisse depuis 1980. On espère que le remplacement de Shinzo Abe sera en mesure de passer par le trou d'aiguille de la récession mondiale et d'amener le Japon dans une meilleure condition. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la fondation de Google le 4 septembre 1998. Google Insurance est une société multinationale américaine qui est engagée dans des services et des produits Internet. Ces produits comprennent la technologie de recherche, web informatique, logiciels et réseaux de publicité. Google a été fondé par Larry Page et Sergey Brin alors qu'ils étaient encore étudiants de troisième cycle à l'Université de Stanford. Ils ont détient 16% des actions de la société. Ils font Google une société privée le 4 septembre 1998. La mission de l'entreprise est de recueillir des informations du monde et de la rendre accessible et utile à tout le monde. Notre information est sur le président Susilo Bambang Yudhoyono a lancé la Journée nationale de la clientèle le 4 septembre 2003. Chaque 4 septembre, l'Indonésie commémore la Journée nationale de la clientèle. L'idée d'une Journée nationale de la clientèle est déclenchée ou initiée par Handi Irawan, un expert sur la satisfaction du client. Lorsque la Journée nationale de la clientèle a été initiée par Handi Irawan en 2003, Beaucoup de gens ont soutenu cette idée. L'essence de la Journée nationale de la clientèle est de rappeler à chaque homme d'affaires de plus proche à ses clients afin de comprendre les besoins du client. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La conférence de Londres est désignée comme la Journée mondiale du hijab 4 septembre 2004. L'histoire a émergé l'idée de hijab international au début de 2000. Le gouvernement britannique, précisément à Londres, a interdit aux étudiants ou à quiconque de porter des symboles religieux, y compris le hijab, dans les lieux publics. À la suite de ces règlements, les femmes musulmanes ont fait des protestations parce que les femmes musulmanes sont obligées de couvrir le awrat. Concernant des grandes émeutes et protestations, on a organisé la conférence de Londres du 4 septembre 2004, participée par 300 délégués de 102 organisations au Royaume-Uni et 35 autres pays. Le résultat est que les femmes musulmanes sont autorisées à porter le hijab en public. Cette date est finalement déterminée par beaucoup de parties comme la Journée mondiale de la solidarité hijab. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
16e l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre, le secteur manufacturier indonésien commence à récupérer. Le secteur manufacturier indonésien a affiché une croissance au milieu des pressions de la pandémie de COVID-19. Cela se reflète dans Purchasing Managers Index ou PMI dans le secteur manufacturier en août, qui était au niveau de 50,8, indiquant qu'il est en expansion parce qu'il a dépassé le seuil neutre ou 50,0. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré dans un communiqué officiel à Jakarta mardi, le 1er septembre, que c'était une bonne nouvelle car cela signifie que l'un des indicateurs de l'économie indonésienne a commencé à remonter. Cette réalisation doit être maintenue et continuellement améliorée, concentrant toujours en travaillant dur dans les efforts de restauration de l'économie nationale. Cependant, Agus a déclaré que les activités du secteur industriel doivent toujours appliquer des protocoles sanitaires stricts. Selon lui, sa partie a obligé les entreprises industrielles à signaler activement la mise en œuvre des protocoles de santé en ligne via le portail du Système national d'information sur l'industrie. D'après les résultats de l'enquête, les entreprises manufacturières indonésiennes affichent généralement une forte croissance de leurs ventes suite à la réouverture progressive de l'économie. Ceci est montré par l'augmentation de la demande des clients, en particulier sur le marché intérieur. En outre, l'indice manufacturier indonésien au 8e mois a également montré que la confiance des entreprises avait atteint son plus haut niveau depuis mai 2019. En effet, l'entreprise s'adapte à l'assouplissement progressif des restrictions sociales à grande échelle ou PSBB liées à la propagation du nouveau coronavirus. Agus Gumiwang a estimé que l'augmentation du niveau PMI pour la fabrication indonésienne a également été soutenue par la mise en œuvre de l'adaptation de nouvelles habitudes qui ont progressivement augmenté les activités opérationnelles dans le secteur industriel. Depuis que l'Indonésie est entrée dans la phase de transition, à savoir l'adaptation de nouvelles habitudes, les chiffres du PMI de l'Indonésie ont continué d'augmenter de 39,1 en juin, puis de 46,9 en juillet et de 58,8 en août. Pendant ce temps, le chef de l'agence de la politique budgétaire du ministère des Finances, Febrio Kacaribu, espère que cette tendance positive se poursuive à l'avenir. Avec une contribution par deuxième trimestre de 2020 de 20% au produit intérieur brut ou PIB et une absorption de l'emploi en février 2020 de 18,5 millions de personnes, le secteur manufacturier joue un rôle très important pour l'économie indonésienne. En effet, on espère que cette tendance à la reprise se poursuivra à l'avenir. C'était Mon Indonésie pour ce soir.
Tapi kedua kali ku melihatmu, semua terasa berubah. Kau beda, kau beda dengan pertama kali ku melihatmu. Kau beda, oh, dan kau berjumpa lagi denganmu.
When I saw you,
kau semakin mempesona. Senyuman di bibirmu membuatku tergila-gila. Hayalku membayangkan kapankah kau jadi milikku. Hayalku kau tercipta hanyalah untuk, hanya untukku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Chers auditeurs du titre du monde entier, voici le programme La beauté de l'Indonésie, ce soir intitulé La vieille mosquée Patimboak. Bonne écoute! Chers auditeurs, la majorité de la population de la Papouasie est chrétienne. Et dans cette province, on peut encore trouver la trace de l'histoire de l'islam sous la forme de la mosquée Wertuir ou la vieille mosquée Patimboak. Il se trouve à Kampung Patimboak, le district Kokas, au nord de la régence de Farfak, la Papouasie occidentale. Il est la plus ancienne mosquée en Papouasie. Pour aller à la vieille mosquée Patimboak du centre-ville de Farfak, il faut passer par la route sinueuse le long de 45 km pour aller au district de Kokas. Le district de Kokas verse le Kampung Patimboak. Le voyage doit être continué avec un petit bateau environ une heure. Le mot Wertwe dans la langue locale signifie le pluvieux. Il y a aussi d'autres sources qui définissent Wertwer, comme l'eau estuarienne fait référence à l'emplacement de la mosquée qui est située près de l'embouchure de la rivière. La mosquée Wertwer a été construite environ 1870 par un prêtre nommé Abu Hari Kilian. Il est venu du sultanat de Ternate et a le devoir de répandre l'islam au pays en Papouasie. Cette mosquée existe jusqu'à présent. De loin, la coupole de la vieille mosquée Patimbura est similaire à la coupole de l'église en Europe dans le passé. Le toit est en forme de zinc sous forme de maison en Papouasie et verte, rose et jaune. Cette mosquée est unique, une fusion entre l'église et la mosquée. Il montre une forte tolérance religieuse dans les régions. En termes d'architecture, la mosquée Wertwer a beaucoup de philosophie. Au milieu de la mosquée, il y a quatre piliers qui ressemblent aux structures du bâtiment sur l'île de Java. Les bois supportant cette mosquée sont toujours originaux, solides et non remplacés. L'intérieur de cette mosquée est presque la même chose avec des mosquées fondées par les ulémas en Java. La vieille mosquée Patimbura est toujours utilisée comme lieu de culte de 36 chefs de famille avec 147 personnes vivant à proximité. Ces auditeurs auditistes de Montgatier, c'était le programme La beauté de la Vénétie intitulé La vieille mosquée Patimbura. À demain!
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Oh,
pula.
Meskipun sejuta malam menunggu,
aku kan setia menanti dirimu,
cinta kamu sampai mati.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, vous allez écouter l'information sur Raisa ITS, prêt à aider à soigner les patients COVID-19 à Wisma Atlet, Jakarta. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, l'Institut de technologie 10 novembre ITS a de nouveau montré sa préoccupation à l'égard du personnel médical dans le traitement des patients COVID-19. Cette fois, ITS a confié l'assistant médical robot ITS Unair ou bien Raisa pour aider le personnel médical chargé de traiter les patients COVID-19 à l'hôpital d'urgence Wisma Atlet à Jakarta. ITS par ITS Technoscience SA a soumis et signé le procès verbal de remise des robots Raisa et Polymerase Chain Reaction PCR au chef de la santé du commandement militaire régional de Jakarta Raya, Kakesdam, colonel CKM Dr. Stefanus Doni, en ligne vendredi 28 août. Auparavant, Raisa était également utilisée dans plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital Universitas Erlangga SUA, l'hôpital de Dr. Sutomo, l'hôpital Usada Utama et l'hôpital Saifullah Anwar Malang. Le chancelier de l'ITS, le professeur Mohamad Asari, a révélé que les patients auxquels le robot Raisa a fait appel étaient des patients qui n'étaient pas symptomatiques et étaient encore capables de bouger. Raisa possède des fonctionnalités clés telles que le moniteur de communication bidirectionnel. Raisa est également capable de fonctionner pendant 8 heures par jour sur une seule chargée de batterie de plus ce robot est capable d'éviter les collisions s'il y a des objets devant lui et de donner un avertissement. Asari espère également que l'innovation ITS via Raisa, un robot assistant d'hôpital, pourra aider l'état de la société à gérer COVID-19. Avec ce robot Raisa, on espère également que le potentiel de transmission du COVID-19 au personnel médical pourra être minimisé, a-t-il conclu. Pendant ce temps, le directeur de ITS Technoscience SA, le Dr Iketut Gunarta, a ajouté qu'avant que le robot Raisa puisse être utilisé de manière opérationnelle, l'équipe informatique de Wisma Athlete et Kodam Jaya a d'abord mené une formation. Depuis l'arrivée du Raisa qui a été envoyé le 4 août, le nombre de patients traités à l'hôpital d'urgence de Wisma Athlete a atteint environ 1 000 000 de personnes. De plus, ce robot sera exploité dans une des tours de la ferme des athlètes et devrait pouvoir aider le personnel médical à guérir les patients. C'est tout, la rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée Raisa ITS, prêt à aider à soigner les patients COVID-19 à Wisma Athlete. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Cher ami, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun intoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.